Attachez vos ceintures et vivez l'aventure automobile jusqu'à 22h sur Indestar.
Starter en direct et en podcast sur indestar.fr.
Ah oui, sauf que là ça change tout parce que nous sommes en 2022. Bienvenue et bonne année les amis. Et merci d'avoir choisi Indestar ce soir pour suivre Starter, hein, votre émission automobile, histoire automobile, hein, puisque on parle bien entendu de l'automobile à travers les époques et comment l'automobile a révolutionné, a changé les choses, a fait évoluer les habitudes des consommateurs, comment les consommateurs ont fait évoluer l'automobile. Enfin bon, bref, vous avez compris un petit peu l'idée. Merci de rejoindre cette émission. Alors, peut-être que vous êtes petit nouveau, petite nouvelle, hein, si c'est le cas, bienvenue. Et puis pour les fidèles, on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre cette émission, à écouter également les podcasts et puis à suivre la chaîne YouTube. La chaîne de Starter sur YouTube, hein, on est 265 aux dernières nouvelles. Donc on veut atteindre les 300 très rapidement. Voilà, je vous le dis, donc n'hésitez pas, vous tapez Starter sur YouTube, vous choisissez chaîne, hein, et vous allez voir le logo de Starter que vous reconnaissez également sur le site internet et puis sur le Facebook. Et puis vous abonnez, vous mettez la petite cloche bleue pour suivre les nouvelles vidéos qu'on sort. Et voilà, en plus il y a des surprises qui arrivent d'ici très peu de temps. Voilà, avec des sagas, avec des vacances, des choses du genre.
Hein, des vacances qui se passent bien.
Des vacances qui se passent bien, évidemment. Voilà, donc en tout cas, Starter redémarre l'année avec deux nouveaux sujet et ce soir on va parler communication automobile, on va parler d'une petite voiture également, et puis on change pas les habitudes non plus puisqu'on aura le sondage. Ah, j'attendais que...
Starter, le sondage.
Ah, voilà. Alors oui, on l'a, mais bon, il est encore en 2021.
Ah, il était en 2021, le pauvre. Bah, bonne année, le sondage. Non, mais justement, c'est un sondage que...
De l'année dernière,
qu'on avait lancé juste avant Noël, d'où ce sondage. Le Père Noël veut troquer son traîneau pour une motoneige. Hein, rappelez-vous, il nous avait écrit une lettre en disant, voilà, j'aimerais peut-être changer mon traîneau pour une motoneige. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on vous avait posé la question via les réseaux sociaux, hein, que ce soit Facebook ou la page Insta, pour ou contre, et vous êtes pas chaud chaud hein, pour le changement, 57% contre, on sait pas, vous êtes plutôt partant quand même pour
traditionnel les rênes,
ça change, mais ouais. Bon, c'est vrai qu'on reste là sur un traîneau avec des rênes traditionnelles.
On passe donc... le reste, c'est plus aussi performant qu'à l'époque.
Non, mais est-ce que la motoneige serait plus performante?
Motoneige spéciale avec portail c'est interdimensionnel vrai. Pour c'est pouvoir vrai. Se déplacer dans l'espace-temps.
Ouais. Et ben, ça sera pas pour l'année prochaine, Père Noël. Si tu nous écoutes, tu peux conserver encore quelques années ton traîneau. On n'est pas prêt. Voilà, on n'est pas prêt. Hein.
Non, on n'est pas prêt pour ça, mais on est prêt pour les brèves.
Oui.
Starter, les brèves.
On a fait le tour de l'actualité automoto. Bon, il y a pas mal de changements hein, qui vont arriver cette année, Teddy.
Alors, moi je vais parler de l'année dernière pour le coup.
Ah.
Un petit top 5 des meilleures ventes de 2021, ça vous intéresse ou
oui,
pas
oui, oui, oui.
Savoir, allez, vas-y.
Tu préfères qu'on dise oui parce que si on disait non, ça serait embêtant pour toi quand même.
On va la faire crescendo du 5ème jusqu'au 1er, évidemment.
Allez, ouais.
Alors, 5ème, le C3 avec 65 millions vendus. 65 000, pardon.
Je disais, ça fait beaucoup.
Ça fait beaucoup de C3.
Donc C3, Citroën, petite berline Citroën. Hein,
petite voilà. Citadine.
Oui, enfin citadine polyvalente. Hein.
Oui, berline compagnie. Je déteste ce terme. Après, en quatrième position, la Peugeot 2008.
Ouais, donc 75 000. SUV, petit SUV Peugeot. Ouais. Voilà.
Dacia Sandero, 77 000.
Ouais, troisième position. Ouais, donc, oui, berline compacte, là, oui, pour le coup.
Renault Clio 5.
Ouais.
85 000.
Ouais. Ça et monte. Tu vas me dire 208 pour la première place.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Putain, j'allais vous demander.
J'allais dire Laguna.
Non.
Il était même pas dans le top 30.
En même temps, on en avait parlé hein, quand on avait parlé de la Clio, mais ça fait des années, même je dis des décennies, où les petites Peugeot et les petites Renault s'affrontent pour la première place.
Ouais.
Ça, la Clio contre la 205. La Clio contre la 206, la Clio contre la 207, la Clio contre la 208.
Et voilà. Je suis étonné. Après, de pas avoir c'est quand même Peugeot qui mène la danse, hein, parce que j'ai regardé le top 30.
Là,
carrément.
Cette année, oui. Et même
Peugeot
globalement, parce que Peugeot.
Martyrise les autres. Hein,
oui, clairement. Peugeot est passé devant Renault en termes de chiffre de vente. C'est la première fois depuis, je crois, toujours. Donc, c'est un grand changement. Mais ce qui ne m'étonne pas, parce que je trouve. Que le style Peugeot et les arguments qu'ils mettent en avant depuis quelques années maintenant vont plutôt dans le bon sens. Donc, alors autant je trouve que Renault fait un peu du surplace et peine à trouver vraiment une stratégie qui va
il
peut-être changer
avec
la Renaultution. Hein, mais oui, ça marche mieux avec Dacia d'ailleurs, ouais, t'as raison. Mais Peugeot, c'est vrai que la stratégie qu'ils ont adoptée marche plutôt bien. Donc c'est justifié, je trouve que c'est plutôt.
T'as dit qu'elle s'appelait comment la nouvelle Renault?
Ah, j'ai pas donné. De quoi ?
T'as dit Renault-volution ?
Non, non, la Renault-lution, c'est le plan de Renault qu'a Luca De Meo, qui est le patron de Renault.
Non, ça a l'air génial.
C'est une stratégie. Alors, est-ce que cette stratégie paiera ? C'est avec la sortie notamment de la nouvelle R5, d'une future 4L, de plein de choses, produits électriques évidemment. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place.
Ça sent le plantage.
Bah, on verra. Bah, de toute façon, l'électrique, on peut pas passer à côté, mais c'est un plan stratégique global.
Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de Renault Zoé ou de Twingo dans le.
Alors, si, ils sont, mais plus loin.
Ouais, plus loin, ouais, dans le top 10 peut-être.
Ouais. Mais ça ne m'étonne pas.
Ouais, la Twingo, c'est pareil, elle fait partie du top 10 depuis 30 ans.
Pas.
Antoine,
oui. Même la Mégane.
Moi, pardon, je suis dans 2-3 jours.
Il y a la nouvelle qui arrive.
On part en 2 jours.
Oui.
Non, dans une journée, excuse-moi. On part le 4 janvier 2022.
Voir
voir des radars méduses.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est des radars dans l'océan. Et oui, il pique sa mère.
Je pense qu'il pique.
C'est des radars pour anti-bruit des véhicules. Tu sais, genre, tu vois, les motos, ils font beaucoup de bruit.
Ah, tu veux dire que moi, avec mon pot d'échappement de la Honda.
Ah, tu risques.
Oh, je suis bon là.
Tu risques 135 euros d'amende.
Ah, ouais, quand même.
Ça contrôle pas. Non, mais
je compte le changer. Des petits problèmes de pot d'échappement percé. Mais,
et
oui.
Du coup, il sort demain et il l'installe où le premier?
À Paris, à moins de ma vie. Mais ça n'est pas été précisé, mais à moins que ça sera à Paris.
Oui, ça sera dans les zones où j'imagine il y a des habitations autour. Ouais, que ça peut gêner. Parce qu'en pleine campagne, bon, c'est bon, on a le droit de faire du bruit ou pas?
Oui, donc c'est un risque de 135 euros d'amende si tu te fais choper.
Ok.
Et pas de points?
Non, et c'est à partir de combien de décibels et comme, est-ce que
c'est pas précisé, il y a juste marqué pour les motos en général. Parce que généralement, tu sais, les motos,
oui, ils font plus de bruit. Oui, non, mais alors si c'est une moto d'origine qui fait du bruit, par exemple, t'as une Harley Davidson, ça se passe comment? Parce que c'est censé faire du bruit.
Il y a des caméras dessus, donc oui, je pense que.
Ah, la Harley, ça passe alors.
Je pense.
Non, mais parce que si elle est d'origine.
Si ça se trouve, t'auras peut-être même plus le droit de rouler avec une moto
qui fait
du bruit, même d'origine.
Non, mais
t'imagines?
Non, mais moi, je pense
que ça se trouve.
Ça serait dans l'air du temps, malheureusement.
Je pense plutôt aux motards ou, tu sais, aux 50 cm
cubes. Oui, qui ont débridé le pot.
Ça ou les motards qui enlèvent leur chicane aussi.
Il y a des scooters?
Oui.
Putain, les enfants ont abordé
pour
un truc
qui avance pas. Non, voilà, on est d'accord. Mais un beau bruit d'Harley là, tu vois, ça.
Bah, j'ai pas envie de l'entendre quand même chez moi, tu vois.
Si, c'est sympa.
Si, non, c'est sympa.
Pas quand t'es à 5h du mat le matin.
Moi, ça m'hérisse les poils à chaque fois que j'entends ça.
Ah ouais, moi ça va, les frissons.
Ouais, je lance des cailloux. Ah,
c'est comme un V8, quoi, c'est pareil.
Ouais. Bah, alors, par contre, je te rejoins sur le coup de la 50. Moi, je vais parler de 2022. Parce que vous vous en doutez, comme on en a déjà parlé en 2021, on va pas forcément dans le sens du plaisir de conduire. Hein, voilà, donc cela dit, je vous ai relevé 3 coupés sport qui sortent ou qui vont être modifiés cette année, avec lesquels on va quand même pouvoir encore faire rugir le moteur. Et faire plaisir à Teddy à 5h du matin.
Sans bruit électronique.
sans bruit électronique, ouais. Alors va falloir en profiter, hein, parce que ça sera très certainement l'une des dernières années où on aura des moteurs thermiques qui voudront encore le coup. Alors il y a déjà la Porsche 718 Cayman GT4 RS. Alors pensez à faire des noms un peu plus courts chez Porsche, s'il vous plaît. Par contre, merci de garder un bon moteur à l'ancienne 4 litres de 500 chevaux à l'intérieur et qui sera capable de hurler jusqu'à 9000 tours minute. Pour faire un 0 à 100 en seulement 3 secondes 4, je valide, même si je suis pas un inconditionnel de Porsche, là pour le coup je valide. Un petit peu moins puissante, mais je préfère le style, c'est l'Alpine A110 qui va être stylé. Donc elle en profite pour monter un petit peu en puissance, ça va atteindre les 300 chevaux tout rond. Toujours dans le même esprit de plaisir que l'on aime. Hein. Alors si j'avais un reproche à faire à la version actuelle, c'est sa finition, même si c'est pas l'essentiel, mais je me dis que quand tu claques 60 000, 70 000 balles dans une voiture, tu peux quand même t'attendre à autre chose qu'une finition Clio. Là, peut-être que ça va être amélioré sur cette version Rostyler, on va pas tarder à le savoir. Et puis enfin, mon number one, qui est aussi la moins chère, ouais, parce que je suis un mec modeste, c'est la Toyota GR86 qui remplace la GT86, qui était la cousine de la Subaru BRZ. Alors, la Subaru BRZ, il y a le nouveau modèle qui sort, mais malheureusement, il sera pas importé chez nous. C'est dommage. Alors, je vous rappelle la recette de la GT86, qui est la même que la GR86. Un moteur à plat pour être super près du sol, donc pour avoir une meilleure tenue de route. 234 chevaux qui passent sur les roues arrière pour bien drifter dans les virages. Un peu d'électronique, mais pas trop. Pas d'électrique. Il y a juste 2 bémols. Déjà, Toyota, ils ont prévu que ça allait être commercialisé que 2 ans. Parce que après, bah, malheureusement pour eux, ça sera plus possible de rester compétitif. Parce que déjà là, on va se prendre 13 000 euros de malus écologique dans la gueule. Donc, et ça va pas aller en s'améliorant. Donc ils vont l'arrêter au bout de 2 ans. Ce qui est dommage parce que bah, déjà, c'est un super coupé. Et puis en plus, prix de base sans le malus, on est à moins de 40 000 euros. Donc ça va encore se faire plaisir à moindre coût. Mais bon, déjà, tu te prends le bonus écologique de 13 000 euros en 2022, qui va évoluer en 2023, qui va évoluer en 2024. Bon, bref, après, ta voiture, elle coûterait 80 000 balles. Donc, c'est pour ça qu'il l'arrête. Aujourd'hui, nous allons parler dans Starter de l'évolution de la communication automobile. Ce qu'on appelait à l'époque la réclame et maintenant la pub, hein, tout simplement.
Oui.
Alors, j'ai pas de date précise de début, mais si on part de l'hypothèse qu'à partir du moment où on crée un objet et qu'on va vendre, et qu'il faut forcément que les gens sachent que ça existe, on a sûrement vu apparaître des premiers encarts dans les journaux au début du XXe siècle. Mais ça devait être assez rare, cela dit, hein, parce que à l'époque, la voiture, c'était quand même un produit de luxe. Et c'est compliqué de vendre un objet qui est inaccessible à la plupart des gens, surtout quand t'as pas l'infrastructure nécessaire, parce qu'il y avait très peu de routes où il y avait des routes pavées, donc c'était aussi compliqué, c'était pas le top. Bref, c'est pour ça qu'on va avancer directement dans l'histoire jusqu'à la France de la reconstruction, donc après la Seconde Guerre mondiale, après 45, où là on a une nécessité clairement de véhiculer les Français et la voiture paraît être l'objet idéal, hein, tout simplement. Le seul hic, c'est que on n'a pas de fric. Donc, dans les premières pubs, radio et télé, on va dire dans les années 50...
C'est la voiture du peuple, il faut une voiture pas chère, il faut la vendre comme ça.
Oui, voilà. Déjà, on mise sur le côté découverte de la voiture, parce qu'on n'en a pas eu avant. Donc, la plupart des Français n'en ont pas. Donc, déjà, on présente l'objet, et ça se fait souvent de manière très didactique, hein, façon JT de 20h avec la voix à l'ancienne. La nouvelle Renault, un principe avec 4 portes, tu vois, un truc comme ça. Et on parle aussi d'économie de budget, que ce soit à l'achat ou à l'entretien, parce que c'est bien d'avoir une voiture, mais faut pouvoir se l'acheter et puis il faut pouvoir l'entretenir par la suite. Voilà. Donc, en Amérique, ils ont pas vraiment ce problème-là, parce que c'est vrai que la classe moyenne, ils ont plus de fric. Donc eux, ils sont plutôt sur acheter la meilleure, la plus belle et la plus grosse. Ce qui va donner des pubs un peu tous pareils, hein, faut bien le dire, mais avant l'arrivée de Volkswagen, hein, sur le marché avec le fameux Think Small, Pensez Petit, dont on avait parlé dans notre émission sur l'histoire de Volkswagen, je vous invite à vous y replonger, hein, si vous l'avez
loupé. Une des meilleures pubs de tous les temps. Sur les
C'est vrai, ça avait cartonné, hein, à l'époque, parce que justement c'était en contre-pied de ce que faisait la concurrence. Et puis ils avaient cherché à promouvoir non pas la voiture, mais la marque Volkswagen. Et ça, c'est une problématique à laquelle se sont attelés en fait tous les constructeurs à partir des années 70, parce que à un moment donné la plupart des gens ont eu une voiture. Donc si tous les gens ont déjà une voiture, faut pas
changer de voiture ou quoi que ce soit, il faut faire en sorte qu'ils restent dans ta marque, tu vois.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut pas chercher à être le premier à faire en sorte qu'ils en achètent une, mais construire une image qui nous est propre pour que le client, comme tu dis, soit fidèle à la marque. Donc là, par exemple, il y a des stratégies qui ont été mises en place, hein. Si je prends Mercedes, si t'achètes une Mercedes, c'est que déjà t'es de la haute, hein, que tu recherches la sécurité et des trucs que le Kidam classique n'a pas sur sa voiture. Si t'achètes une Peugeot, c'est que tu veux profiter de la vie, que tu veux ressentir des émotions, prendre du plaisir comme ça au quotidien. Si t'es plutôt Citroën, c'est que t'es un original, que t'es en avance sur ton temps et que tu apprécies fortement le confort. Voilà, donc chaque marque a cherché à promouvoir ses modèles de la même façon, en adoptant une stratégie globale. Pourquoi tu te marres, Teddy?
Je peux pas m'empêcher qu'il doit avoir une marque qui dit « Ouais, ça, c'est de la merde.
Nos voitures, c'est de la merde. »
C'est obligé qu'il va y avoir des marques qui ont dû pâtir d'une réputation négative, de genre... Parce que là, c'est vraiment que des bonnes, mais c'est eux qui ont voulu se donner cette image.
Oui.
Mais il devait y avoir des images contraires, réelles, entre guillemets, genre « Ah, ça, c'est la marque de merde. »
Alors, des fois, forcément, il y avait un gouffre entre la publicité et la réalité, cela dit, pas tant que ça. Après, il y a des marques, notamment, je vais prendre les marques de l'Est, tu prends Lada par exemple, leur vocation, comme là actuellement Dacia, c'est le pas cher. Donc bon, qui dit pas cher dit aussi t'as fait des économies sur certaines choses, qui étaient encore plus vraies à l'époque que maintenant, parce que bon, maintenant même une Dacia, je veux dire, ça tient la route, c'est relativement bien équipé, etc.
Ça passe les crash tests, mais ça se détruit quand même.
Les crash tests, ce qui n'était pas forcément le cas, tu vois, d'une Lada qui pouvait se retourner en 2-2 parce que justement ils avaient fait des économies sur la tenue de route, quoi. Bon, bref.
La voiture bateau.
La voiture bateau. Ouais. On se souvient aussi de certains slogans de constructeurs qui ont marqué les esprits. Il y avait ma Toyota est fantastique dans les années 80, qui était propre à Toyota. Il y avait Renault des voitures à vivre aussi qui a marqué les esprits. Et puis il y a des publicités en particulier. Il y a eu beaucoup de choses très créatives, hein, d'ailleurs, dans les années notamment 70 et 80, avec d'ailleurs plus ou moins de réussite, Teddy.
Alors, dans les années 80, je sais pas.
Si, je t'assure que si.
Il y en a une que je connais ouais. Un peu particulièrement, c'est celle-là.
Ah oui.
Demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, ouais. Elle ira jusqu'au bout. son coffre est très grand et on y met tout dedans. Elle peut aussi coucher dehors du Sahara jusqu'au pôle Nord.
Alors ça, coucher c'est... dehors, c'est pas totalement vrai.
Si,
ouais, ça rouille très bien aussi.
Alors, elle couche dehors, mais elle rouille. Mais ça, on ne le dit pas dans la publicité. C'est Michel Fugain, ouais, qui chantait qui ça, pub pour la 4L, hein, la Renault 4, qui l'une des nombreuses pubs pour la 4L. Ouais, ils aimaient bien chanter à l'époque dans la publicité, et ça avait bien marché ça en France. En plus, Michel Fugain, tu prends un chanteur connu dans l'air du temps, forcément ça marche.
Oui, maintenant ils n'en sont plus trop dans l'air du temps.
Attends, ça, c'est les années 70, hein, ça, c'est
ouais,
pas 80.
73, ouais, parce que 80.
Bah 80, si, il y avait. Alors, c'était encore la course à la puissance, et t'avais notamment la pub pour la 205, enfin les pubs pour les 205 qui ont marqué les esprits, et notamment celle de la GTI, où on voyait une GTI qui arrivait par parachute, où le mec glissait sur la glace, ou évitait les bombes et tout ça, et puis arrivait chez, je sais pas si c'était sa copine, mais tu sais, façon James Bond,
ah
quoi.
Ah, oui, c'est en train, là.
Ah, t'as celle du train aussi, ouais, ouais. Non, il y en a eu plusieurs, et c'était pas la seule, mais c'est vrai que celle de la 205 a particulièrement marqué les esprits.
Je suis rentré. Non, je sais pas.
Ouais, tu sais, ouais, genre, j'ai réussi ma mission, quoi. Voilà.
Non, tranquille.
Et puis, et celle de la Visa aussi. Rappelez-vous de celle de la Visa, où il y a, c'était la Visa GT, je crois.
Ma
où,
carte bancaire?
Non, la Citroën Visa. Alors la Citroën Visa qui, à la base, était une voiture très banale, voire même un peu moche, mais il y avait la Visa GT qui était la version sportive hein, de la gamme. Et pour la mettre encore plus sportive, t'as cette fameuse pub avec un sous-marin où les mecs, ils disent « Ouais, je vais cartonner, etc. » Il prend la Visa et il saute en sous-marin. Il s'envole, tu vois, avec le comme un avion, en fait, qui part du sous-marin. Sauf que, bah, il est pas... C'est pas un avion. Donc, la Visa, elle retombe dans l'eau. Là, tu dis « Ah, bah, c'est mort. » Et en fait, t'as le sous-marin qui réapparaît de la surface avec la Visa. Et, bah, tu vois, j'ai cartonné avec la Visa GT. Bref, ça fait partie des publicités marquantes de l'époque et qui promouvait bah, la puissance, la vitesse.
Ils utilisent un sous-marin.
Oui. Ah, mais ils mettaient les moyens, hein, ouais. Que ça soit le largage en hélicoptère de la 205 ou le sous-marin pour la Visa, ouais, ils faisaient des pubs qui envoyaient du lourd, quoi.
Bon, après, en pub qui envoyait du lourd, on a aussi Elon Musk, hein, plus récemment.
Alors oui, sous une forme passe-pot télé, pour le coup.
Non, c'est passe-pot télé, effectivement. Ouais. Comment dire, il devait envoyer une fusée qui avait pour but d'envoyer des satellites en orbite. Mm-hmm. Sauf que sa fusée, il n'avait pas de satellite à mettre dedans. Donc il s'est dit, je vais mettre une Tesla. Une Tesla avec un mannequin qui s'appelle Starman d'ailleurs. Mm-hmm. Ils l'ont fait en. C'est quand, Antoine?
Le 6 février 2018.
6 février 2018. Ouais. Il y a presque 3 ans, quoi.
Ouais, ouais.
Non, presque 4 ans.
4
pardon.
Ans, ouais.
Ouais, bah il l'a fait, hein, ce con, il l'a envoyé.
Mais ça marche.
Ça marche, ça a buzzé. Le lancement de sa fusée, mais personne n'en a rien à foutre. Mm. C'est un succès. Hein,
parce que là, encore une fois, on est dans une stratégie de marque. Tu vas pas acheter la Tesla qui a été envoyée. Je crois que c'était une Tesla coupée en plus.
Oui, la première boucherise, décapotable.
Mais tu vas pas forcément acheter celle-là. Mais tu entends parler de la marque. Et à partir de ce moment-là, t'as un affect, en fait. Et ça rime. Enfin, je veux dire, le côté espace. Tesla, c'est-à-dire en avance sur son temps, etc. Ouais. Il y a toute une image
futuriste,
derrière
qui...
futuriste. Ça, ouais. Voilà, ouais, ça va dans le sens de ce que Tesla vrai, veut promouvoir.
Du coup, ouais, ça a été l'une des pubs, enfin, c'est la pub la plus chère autour de la bagnole, qui n'est même pas vraiment une pub, enfin, pas une pub.
C'est de la communication, on va dire. Ouais. Ouais.
C'est légendaire. Mm. Juste ça, déjà.
Il y a d'autres pubs. Alors, on parlait de la 205, de la 4L. Après la 205, il y a eu la 206. Tu te rappelles de la 206 où le mec conne contre le mur pour faire la 206 à son image?
Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a même eu celle. Alors, je sais plus si c'est une 206 avec un éléphant.
Oui, c'est ça qui s'assoit.
Oui, il s'assoit pour la remodeler.
C'est ça, ouais, c'est pour la 206, ouais.
C'était une 206. Ouais. Ouais.
Et puis plus vieux, moi je me rappelle, j'ai vu les extraits parce que j'étais pas né à l'époque, mais Citroën avait fait une association, enfin avait associé sa marque à l'époque avec les Shadok. Vous vous rappelez des Shadok?
C'est quoi Shadok?
C'était des petits personnages.
Oui, les petits personnages dessins animés où il y avait les Shadok et puis je sais plus les Gigi, les Gucci, je sais plus qui étaient les ennemis et ils devaient quitter leur planète pour aller sur la planète Terre et c'était une série, on va dire, une série de dessins animés qui passait à la télé, qui était vachement suivie et ils se sont associés en fait à ce que les Shadok pompaient. Alors, ils pompaient et du coup Citroën s'est dit hey, mais ça peut être utiliser l'image des Shadok pour aller avec ma suspension oléopneumatique justement, tu vois, de l'AGS, et ben voilà, on va associer les deux et on va en faire. C'est un bon coup médiatique parce que c'était les Shadow que tout le monde les connaissait à l'époque et t'associes ça à l'image de Citroën avec la suspension et les hauts pneumatiques. Bon coup de pub.
Après, t'avais aussi par rapport aux enfants, Citroën, quand il s'est lancé dans la fabrication de miniatures de voitures.
Ouais.
En 1923, je crois.
Ah oui, c'est
avec ces Citroën Taxi et type A, je sais plus quoi.
Ouais, enfin, c'est ça.
Ouais, ils ont lancé ça. Ils se sont dit, tiens, ça va marcher comme ça. On met. Il a dit ce truc assez légendaire, je trouve. Je veux que les enfants disent leur premier mot soit papa, maman et Citroën.
Pourtant, il y a un R, c'est compliqué hein, pour dire Citroën avant maman ou papa.
Tu vois, il s'est dit, ouais, faut que je mette de la Citroën dans leur vie, comme ça, bah, j'ai des futurs
Mais André
fidèles.
Citroën était un grand maître de la publicité, comme Elon Musk aujourd'hui avec Tesla. Il a fait des choses, bah, notamment l'illumination de la Tour Eiffel. Ouais. On en avait parlé hein, quand on avait parlé de Renault, mais le mec a quand même fait illuminer... C'était en quelle année, ça?
En 1925.
1925, hein, pour 1925, oui, le salon qu'il y avait. Il a fait illuminer la Tour Eiffel au nom de Citroën et... c'est resté comme ça pendant 7 ans, c'est-à-dire que tous les soirs, toutes les nuits, il y avait la Tour Eiffel
Citroën.
Illuminée. Il y avait 3 millions de Français habitant à Paris qui voyaient la Citroën illuminée avec le Citroën dessus. Et il y avait à chaque fois Renault qui passait, Louis Renault qui passait, qui faisait la gueule quoi. Il passait devant la Tour Eiffel tous les soirs, c'est pas moi.
Il a pas fait que ça aussi, dans le même salon, mais en 1922, un an avant le lancement de ses jouets miniatures, il s'est dit on va prendre un avion. On va le faire on va tu sais comme les avions de France là cracher de la fumée et l'avion il va écrire Citroën. Alors c'est galère mais ça se fait.
Ah j'avoue.
Du coup l'avion il a écrit Citroën en gros dans
le ciel.
Ouais, à l'ouverture du salon donc tout le monde l'a vu.
Ouais.
Enfin tout le monde tous ceux qui étaient à
tous
Paris
ceux qui
ce
étaient présents, ils ont vu le
T'as vu un gros Citroën en fumée? Ouais, ça marche bien aussi.
C'est bon, ça coûte la blinde, mais ça marche bien. C'était un petit peu les
le
prémices
Elon Musk
de Elon Musk après avec l'espace. Quoi. C'est cool.
C'est vrai.
Ouais. Il y a d'autres exemples comme ça, alors de publicité. Là, on a parlé beaucoup de publicité télé, radio, etc. Mais on avait bien sûr la pub Citroën dont on avait parlé, la fameuse Think Small avec les affiches. On voit la Volkswagen en tout petit, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses hors ce classicisme, on va dire, de communication, Antoine, qui ont marqué les esprits ces dernières années ou même siècle dernier?
Oui, il y a des films, genre Jurassic Park.
Ah oui, tu veux dire les voitures qui ont été incluses dans les
films. La publicité passive.
Ouais.
Jurassic Park, on voit bien les Jeep et puis les Mercedes. Ouais, les Mercedes.
Bah, Jeep aime bien communiquer comme ça sur
tout ce qui est broussailles
et tout culture.
Ça.
Bah, déjà, oui, bah dans le dernier clip d'Avril Lavigne, on voit... Bite Me, exactement.
Oh, l'accent anglais fait peur.
Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, on voit, là, clairement, c'est une communication commerciale, parce qu'évidemment, il y a des voitures qui marquent les esprits, que ça, on en avait parlé hein, dans les films, dans les séries, etc.
C'est un peu la voiture typée passe-partive, comment dire... pas mieux qu'un 4x4 limite hein. Oui, souvent plus utilisé qu'un 4x4 d'ailleurs je sais pas quand tu vas en broussailles, quand tu fais un film en Afrique, quand tu fais un film avec des militaires souvent et qui doivent être à l'extérieur pour montrer qu'il y a des militaires.
Il y a un petit côté junkie aussi là-dedans.
Et, c'est souvent des Jeeps.
Alors des fois, dans des clips ou dans des films, il y a des bagnoles qui sont utilisées sans l'accord, entre guillemets, de la marque. Mais là, par exemple, tu parles de nouveau clip d'Avril Lavigne. Clairement, c'est un placement de produit parce qu'on voit le Jeep en grand. Il y a un zoom sur le
logo. À un moment donné,
Jeep,
si tu vois 2 ou 3 secondes sur le logo, c'est que tu dis
oui.
Ouais, ça c'est bon.
C'est là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un partenariat. Et ça fait partie de la publicité un peu moins traditionnelle, mais qui marque les esprits. Tu dis, ah tiens, Avril Lavigne, elle roule en Jeep. Bah, t'as envie de t'acheter une Jeep.
Il y a aussi iRobot avec Audi.
Oui. C'est vrai qu'on en a parlé, reparlé, mais là, c'est un vrai partenariat,
Il y a une série aussi que j'ai terminée il y a pas longtemps, c'est Nick Cutter et les portes du temps.
Ouais.
Et là, tu vois clairement Toyota et Mitsubishi, mais bien en gros. Hein.
Voilà, les partenariats avec des marques.
Et aussi Lutfinesse aussi, qui utilisait souvent des...
Les DS Citroën, ouais. Mais là, je pense que c'était plus une volonté du producteur et même de Lutfinesse. Bon, alors déjà, qui aimait la DS en termes de voiture. Et puis, peut-être un peu l'esprit français, tu vois, du film, d'utiliser une DS pour promouvoir un peu la France, plus globalement. Voilà, comme les présidents ont utilisé notamment des Citroën et même des marques françaises en règle générale, ont toujours utilisé des marques françaises pour promouvoir aussi la
ouais,
France.
Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés, ils ont une réglementation. Ouais. Entre
alors c'est vrai que autant Général de Gaulle avait de la chance de rouler en DS, bon maintenant il roule en DS 8, 7, bon, en okay, Renault Espace, bon, ils ont un peu moins de chance.
Ouais, c'est clair.
Il y a aussi les jeux vidéo.
Oui, dans les jeux vidéo, ouais.
Mario Kart ?
Oui. Ah oui, parce que Mario Kart, Mercedes a réussi à mettre une de leurs voitures dans Mario Kart. Tu peux jouer avec une Mercedes.
Ouais. Je l'ai pas vu, ça, j'y crois pas.
Depuis des années, hein, depuis 3-4 ans, hein, ils ont réussi à faire ça.
En même temps, je joue jamais à Mario Kart.
C'est pour ça.
Ouais. Et comme moi, si vous jouez aussi à Farming Simulator, c'est pareil,
il y a John Deere.
Oui, qui est apparu il y a pas longtemps en plus.
Ouais. Mais c'est sûr. Non, les tracteurs verts, je viens de dire, ils sont célèbres pour
bien
moi.
Sûr.
Oui, mais ils sont là que depuis le 2019. Ouais. Avant, ils n'y étaient pas.
Mais là, pas c'est double bonne communication parce qu'en fait, les jeux, ils cherchent à avoir des véhicules, surtout sur un jeu de simulation, avoir des vrais véhicules.
Réaliste, bah ouais.
Comme dans Euro Truck Simulator, t'as des vraies marques de camions, etc. Et c'est bon donc pour le jeu, mais c'est aussi bon pour les marques, surtout dans des jeux qui sont de la simulation, donc tu vas pas t'amuser à faire des tonneaux avec ton tracteur, tu vois, c'est pas un GTA.
Et même si tu peux t'abuser, on peut
même
ça
si
le faire,
faire,
mais c'est pas grave.
Tu peux, mais.
Ça fera pas une mauvaise pub pour
non.
le camion en fait.
Non.
Donc c'est même plutôt avantage. Et tu peux même modifier les défauts de camion ouais, si tu t'arranges avec le.
C'est vrai ça.
Tu peux aussi pousser les moteurs aussi dessus.
Oui. Du tuning.
Ouais, c'est vrai.
Et après, bah, c'est les équipes de foot aussi qui utilisent des.
Ouais, le sponsor sportif, ouais. Mais je me rappelle de Kia notamment qui est. Sponsor officiel de l'équipe de France quand il y a des
ah
matchs
bon
de
Kia.
Oui. Bah quand on ouais quand on voit
même
le
pas
le...
Renault tu...
Non, mais bah, attendez, je sais pas si c'est l'équipe de France ou la Coupe du monde plutôt. Ça va être plutôt de la Coupe du monde. Quand il y a la Coupe du monde de football, on a des affiches Kia qui sont sur les stades. Mais ça doit pas être l'équipe de
là,
France.
T'as l'équipe de Lyon depuis l'année dernière. Mm-hmm. Ils sont sponsorisés par MG.
Ah oui, marque chinoise donc maintenant MG, hein, c'est plus britannique.
C'est plus ouais. Lyon, et d'accord.
Ouais.
Et l'équipe. Alors que Lyon,
il devrait être sponsorisé par Peugeot, ce serait logique. Parce que
oui, c'est
le logo est un Lyon.
Bah même par une marque française, j'ai envie de dire.
Ouais.
C'est un peu con.
Alors par exemple, quand tu vois l'équipe allemande.
Ouais.
Mercedes, ça fait depuis 45 ans qu'ils sont.
Ah bah eux, ils ont compris. En Allemagne, ils sont sponsorisés par une marque allemande.
Et depuis 2019, ils sont sponsorisés par Volkswagen.
D'accord. Aussi allemand.
Ça reste cohérent.
Ouais, ok. Bon, alors vous rappelez peut-être d'autres pubs hein, qui vous ont marqué.
Ah, bah y en a des plus récentes d'ailleurs, ouais. Si tu veux. Il y a des pubs, qui sont passées à la télé aussi, que très célèbres, qui ont marqué, franchement, qui ont donné envie d'acheter la bagnole.
Par exemple.
Par exemple, celle-ci.
Ah, c'est pour le Duster.
Oui, ouais. Le Duster, celle-là, c'est celle de 2018.
Alors, donc, ça m'a pas donné envie d'acheter un Duster non plus.
Non.
Hein, mais
C'est pas celle-là. Celle-là, c'est pas la première. Mais si tu veux, j'ai la première de la pub.
Ah,
Duster.
C'est Queen, je crois, non?
Ouais.
Tain. Another one drives a Duster. Ouais. C'est extrait de Another One Bites the Dust de Queen.
Ouais, c'est ça. Et là, il dit Another One Drives a Duster. Donc,
okay.
Encore quelqu'un qui conduit un Duster, grosso modo.
Ouais.
Cette pub-là, elle a marché, mais du tonnerre. C'est l'agence Publicis qui l'a fait.
Ouais.
Comment dire ? J'ai lu un truc assez intéressant là-dessus. Ça disait, grosso modo, les pubs de bagnole, elles sont créées tous de la même manière. Enfin, là, en ce moment.
On va y revenir, mais oui.
Il y a une dizaine d'années, ils se créent tous de la même manière. C'est t'as une pub sur une bagnole, faut que la bagnole roule, que ça a l'air zen, tout ça. Et la musique, tu la poses après.
Ouais.
Alors, la musique doit être cohérente avec la pub, évidemment, mais voilà, c'est fait comme ça. La musique est après. Là, Duster, ce qu'ils ont voulu faire...
Ils ont fait l'inverse.
Ils ont fait l'inverse. Ouais. Ils ont mis la musique et ils ont mis la voiture qui allait avec la musique.
D'accord.
Dans le sens, oui, Another One Duster. Alors, déjà, c'est bien.
Bon, enfin, ils ont pris la musique en rapport avec la voiture aussi, parce que je veux dire...
C'est vrai qu'il n'y a pas tant de musique là, qui va là-dessus. Ouais. Mais comment dire, Duster, ça se prête bien. Ça se prête bien avec la langue anglaise. Et comment dire, ils n'ont pas choisi Queen pour rien. Dans le sens où...
c'est populaire.
C'est populaire auprès de toutes les générations.
Ouais.
Là, ta voiture, avec cette reprise de Queen, tu peux la vendre à des vieux. C'est méchant, mais c'est vrai.
Hey, bah c'est la cible d'ailleurs. Enfin, les vieux, non, mais disons les quarantenaires, cinquantenaires, quoi.
Mais même les jeunes, tu peux. Tous, alors même si effectivement la cible c'est quand même un peu plus âgée.
Ouais.
Mais tu peux la vendre à tous, ça parle aux jeunes, c'est intemporel, Queen.
Ouais, c'est vrai.
Le Duster, ils font passer aussi un petit peu, ils essayent. Mmh,
bonne stratégie commerciale.
Et... excellente stratégie commerciale.
Ouais.
Donc bon. Il y a des pubs sympas quand même.
Ouais.
Ils vont en faire une en 2021 aussi, je crois. Je sais pas si je l'ai vu encore.
C'est vrai. Après, c'est vrai que globalement, si je vous demande ces 10 dernières années, enfin.
S'il y a des pubs bien, non.
Bah. En fait, alors c'est pas que de la faute des constructeurs ou des agences de pub, hein, si toutes les pubs aujourd'hui sont chiantes, hein, les publicités automobiles, c'est parce que déjà il y a la vigilance de l'ARPP, alors c'est l'autorité de régulation professionnelle de la pub, qui a quand même bien castré les envies de folie des constructeurs, parce qu'aujourd'hui quand on fait une publicité de voiture, on n'a plus le droit ni de faire l'apologie de la vitesse, donc plus de sous-marins avec des voitures qui s'envolent, on n'a plus le droit d'encourager les comportements agressifs. On n'a plus le droit de montrer des comportements qui sont pas en accord avec les règles de sécurité. Donc, en fait, il reste le design comme axe, le confort ou les aides à la conduite. C'est quand même plutôt maigre. Surtout qu'en plus, notre voiture, elle ressemble à celle du voisin. Parce que si c'est pas la même marque, c'est certainement le même groupe. Hein, vu que toutes les marques se sont mises ensemble. Donc, en fait, c'est de plus en plus difficile de faire valoir des différences que t'as pas, parce que tout le monde aujourd'hui a une caméra de recul, un truc, voilà.
Si, t'avais Jaguar qui avait fait un truc sympa, je crois. Alors, je sais plus quelle. Il y avait une marque de voiture qui avait comparé la stabilité de sa bagnole au coût d'une poule.
Ouais.
Parce que, effectivement, quand tu prends une poule, son cou, sa tête, ça bouge pas.
C'est vrai que celle-ci était bien, ouais.
Et ouais, ils avaient fait une super pub là-dessus. Mm. Jaguar, ils se sont dit, on va faire encore mieux. Donc, tu vois, le même mec avec sa poule, il se balade. Et tu vois un jaguar à la fin de la pub qui bouffe la poule. Bah nous, on préfère les réflexes félins. Hop là, dans ta gueule.
Et j'aime bien quand les quand les marques comme ça se taclent et que c'est un jeu, en
c'est
fait.
Beau,
et
c'est
ça
beau.
Te fait suivre la pub d'après. T'as envie de connaître ce qui va arriver ensuite et la fin mot de l'histoire. Et ça, c'est plutôt intelligent parce que t'as envie de regarder la pub, quoi.
La suite, ça peut être des chasseurs qui butent le jaguar. De... ouais, mais rouler trop vite, tu vois, c'est pas bien.
Après, faut que ça colle aussi, tu vois. Et l'idée des chasseurs, ça peut être...
Non, mais pas les chasseurs, des chasseurs des flics, tu vois.
Oui.
Qui t'interpellent.
Non, c'est vrai qu'il y aurait quelque chose à faire. Mais bon, globalement, c'est de plus en plus homogène
compliqué,
et de plus en plus compliqué de faire quelque chose d'original. Cela dit, les constructeurs peuvent pas s'arrêter de communiquer parce que en tant que constructeur, faut défendre ses valeurs et je les défends comme je peux, mais si je m'arrête de communiquer sur ces valeurs, les gens les oublient.
Ça va être dur de...
Et même je disparais en fait totalement de la tête des gens, j'existe plus. Donc faut essayer de faire de la publicité quand même, et puis faut essayer de vendre des merdes électriques actuellement, avec des messages qui sont tous les mêmes. Mais d'ailleurs, vous regardez la publicité, c'est exactement la même chose, hein. C'est-à-dire qu'on a des messages du genre rassurant, tu vois.
Rassurant,
genre 300
écolo,
km d'autonomie en seulement 30 minutes. Bon, alors là, tu te dis, ouais, bon, je sais que t'es capable de faire 600 bornes en une minute de plein avec ta bagnole essence, mais on avait que ça à dire, ok? Donc, on n'a pas le choix, tu vois. Et en fait, ils sont coincés, les constructeurs, parce que, d'une part, ils essayent de conserver leurs clients pour qui, comme moi, et peut-être comme vous, la voiture est encore un objet de plaisir et de liberté. Et puis de faire aussi plaisir à ceux qui prennent la voiture comme uniquement un déplacoir, avec toutes les contraintes gouvernementales et européennes qui sont infligées. Donc, au final... entre ce qui
c'est
est
dur.
L'essence même de la voiture, il y a un jeu de mots, qui est un objet qui par nature est assez polluant, que ça soit électrique ou pas. Hein,
d'ailleurs
je veux dire la production,
il y a une nouvelle législation etc. là-dessus sur 2022. Tu ne pourras plus.
Ouais, je vais revenir là-dessus.
Tu ne pourras plus faire de pub pour des voitures trop polluantes.
Ah, c'est pas ça. Oui, ouais, non, mais c'est vrai.
C'est déjà pas mal, celle-là. Donc, en gros, si ta voiture dépasse un certain quota de pollution,
tu pourras plus faire de
pub. Tu peux pas faire de pub pour elle.
Ouais, ouais.
Bah, c'est pareil pour quand tu disais la vitesse, tout ça. Bah, là,
mais il y a une autre loi aussi qui est passée, on va en reparler. En tout cas, voilà, c'est une voiture qui. Enfin, je veux dire, la voiture en elle-même n'est pas un objet écologique en soi. Donc, tu as du mal à vendre un objet. Qui va à l'encontre. Mais en même temps, ils n'arrivent plus à toucher aucune des cibles. Et c'est bien là le problème. J'ai l'impression en fait qu'aujourd'hui, si t'achètes une nouvelle voiture, c'est parce que t'en as encore besoin. Entre deux autres objets de mobilité, il vaut bien que t'achètes une voiture. Et c'est pas un spot qui va me faire naître l'étincelle qu'on pouvait avoir à l'époque en disant ouais, celle-là, je la veux absolument. Quoi. Après,
ça ne fonctionne même plus comme ça d'ailleurs.
C'est vrai. Mais je pense que dans les années qui vont venir, les constructeurs vont avoir tout intérêt à se creuser les méninges pour trouver une autre façon de vendre leur voiture. Soit en utilisant la pop culture, on a donné quelques exemples et je pense que ça va être une idée à creuser. Le métaverse, on en parle beaucoup, hein, ces univers de réalité virtuelle avec des lunettes 3D où on veut nous emmener. Alors là, dans le métaverse, on n'aura pas forcément besoin de bagnole, mais ça sera peut-être.
Sauf si tu conduis une bagnole virtuelle.
Ouais, mais pourquoi
le constructeur... Bah pourquoi, je sais pas, mais si tu t'arrives et que le constructeur il fait un partenariat avec le métaverse.
Bien sûr.
Ça marche.
Bien sûr que si c'est une voiture que tu conduis et que tu aimes dans le métaverse.
Je viens de te donner un truc copyright, t'es dit.
Oui, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, c'est ce que vont chercher à faire les marques en règle générale. Le support web, hein, en règle générale, sera une bonne chose puisque on est quand même en train d'assister à un grand changement en tant qu'habitude d'achat. C'est-à-dire qu'on commande de plus en plus en ligne d'une manière générale. Alors, c'est aussi valable pour l'automobile, peut-être dans une moindre mesure pour le moment. Mais on se dit que dans les années à venir, ça va devenir la norme. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les derniers chiffres, on est quand même à 90% à avoir consulté des avis en ligne avant l'achat d'une voiture. Ce soit une voiture de neuve ou une voiture d'occasion. Ça passe notamment...
C'est qui ces pigeons là ?
Bah non, mais de regarder des avis sur internet avant d'aller à la concession et de se faire aider par un...
Ah ouais.
Bah ouais. Donc on va des fois sur YouTube, hein, vous allez sur la chaîne de Starter, n'hésitez pas à la rejoindre, c'est la meilleure. petit placement de produit. N'empêche que on est quand même presque 100 000 sur l'année 2021 à être passé par la case directement internet pour acheter sa voiture, sans passer par la case concession comme on le faisait avant et comme on le fait encore maintenant.
C'est
mais,
plus à la mode, effectivement.
Mais de plus en plus, on passe par internet pour acheter une voiture sans même l'essayer, ou alors en l'essayant avant chez un concessionnaire, mais en passant par la case d'achat sur internet. Et chez Tesla, c'est même la norme, hein, puisqu'ils sont...
Mais il faut que par internet.
Pas que, mais à trois quarts.
Bah, surtout en France, de toute façon, t'as trois quarts
des... C'est vrai qu'il n'y a pas de concessionnaire.
T'es obligé de l'acheter sur internet.
Mais d'une manière générale, trois quarts des clients achètent en ligne. Donc, je pense que les concessions traditionnelles ont du souci à se faire. Je dis pas qu'il faut tout arrêter non plus, mais à mon avis, il va falloir revoir beaucoup de choses dans les années à venir et changer ce qu'est une concession aujourd'hui. Avec en gros, t'as trois modèles en showroom et le vendeur qui te fait la cour.
Ça existe plus, c'est fini. Ça.
Il va falloir rendre les choses un peu plus vivantes, peut-être aussi de manière plus agressive. Alors, dans le sens d'aller sortir de la concession et d'aller séduire le client avec des OP où, par exemple, il peut prendre le volant et le préparer à l'achat pour ensuite que le client fasse la démarche d'aller dans une concession ou d'aller acheter en ligne.
Moi, j'aurais bien autre chose encore même.
Ouais.
Toujours dans l'ère de la modernité, tu vois, un truc en réalité virtuelle où tu vois genre la construction de ta bagnole en 3D, tu vois genre comment ça fonctionne, comment ça se fait, comment voilà. Ça, je pense que ça pourrait marcher aussi.
C'est vrai. De savoir comment c'est fabriqué.
Ouais, comment ta voiture est fabriquée.
Parce qu'on nous vend un message actuellement en disant la bagnole est produite de façon écologique. Alors, on sait très bien que c'est pas vrai, qu'on sait pas recycler les batteries, tout
Tu vois, t'en ferais une vision 3D et tout.
Mais
de
si
comment
on
ça
le prouve.
Ouais, voilà.
Je suis d'accord avec toi.
C'est pas l'époque qui louait carrément, les concessionnaires louaient des véhicules pour que les gens les essayent, pour qu'après ils puissent voir.
Alors, je me rappelle d'une communication qui avait été faite sur la 4L, c'était l'opération Prenez le volant, où on mettait à disposition des gens, c'était même pas de la location gratuite.
Ouais, c'est qu'ils prêtaient les bagnoles.
Ils prêtaient les bagnoles pour que les gens les essayent et soient convaincus de l'intérêt de la voiture pour ensuite passer à la case d'achat. Ça, je pense que c'est une bonne opération parce que à partir du moment où tu rend l'objet entre guillemets indispensable, ou en tous les cas,
si tu l'apprécies. Tu la casses entre temps.
Ah, je sais pas, il va y avoir
parce qu'à l'époque, je pense pas qu'il dit rembourser. Hein,
Non, mais je sais pas comment ça se passait exactement.
C'est sûr.
Mais je veux dire, même si t'en prêtes une voiture et que t'en as une ou deux cassées, je pense que t'es gagnant au final.
C'est vrai.
Bon, c'est ce que font. Allez, on va prendre les logiciels. Où tu as une version gratuite pendant un temps et puis après ils te la font payer. Tu t'es habitué au logiciel donc t'as envie de l'avoir par la suite.
Ça peut marcher.
Mais en tous les cas, va falloir des choses un peu plus engageantes, je pense, que le simple spot télé.
Ou tu vois la voiture traverser des routes, des zones désertiques.
Mais c'est ça, où elle est en ville, il n'y a pas un Pékin qui est là et elle traverse avec une petite musique douce et à la fin, t'as des messages, caméra de recul, alerte de franchissement.
Quand ils font leur place de parking, quand ils se garent, putain, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je passe ma vie à me garer, moi.
Avec on met un feu de croisement, on serre le frein à main, etc. Oui. C'est chiant, surtout qu'en plus, au niveau des spots télé, ça va pas aller en s'arrangeant, parce que le gouvernement vient de pondre une nouvelle loi qui va être mise en place dès le mois de mars. Alors vous connaissez les messages pour la bouffe, là, pour votre santé,
manger
éviter
mieux,
de manger gras, trop sucré, trop salé, etc. Et ben on aura un petit peu la même chose pour les voitures. C'est-à-dire qu'on va nous inciter, il y aura des messages à nous inciter à covoiturer, à utiliser le transport en commun ou un vélo. C'est-à-dire que, en gros, tu communiques pour ta marque en tant que constructeur automobile.
Et hein. Tu dois dévendre ta bagnole.
Et tu dois dire, utilisez-moi la voiture.
Alors ça, tu vois, je suis sûr qu'ils vont l'utiliser dans le sens où, ouais, ma voiture, elle est parfaite pour covoiturer. Un truc du genre, je suis sûr qu'il
oui,
va y avoir de la pub.
Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, en fait, tu incites les gens à moins utiliser l'objet que tu vends.
Ouais,
tu vois,
c'est...
Alors,
c'est
on pourrait dire, il y a un problème dans l'histoire. Cela dit, problème, il y a toujours une entre guillemets, une solution. Et la solution, moi, que je vois, et ça m'attriste, hein,
c'est de s'aligner, de faire tout électrique.
C'est de vendre autre chose que des voitures.
Ah, des trottinettes.
Mais non, mais ça paraît bizarre dit comme ça, mais malheureusement, c'est évident. Et
t'es un start-upper, tu commences ton truc de trottinette, c'est le moment.
Mais oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, tu prends l'industrie de la musique par exemple. On est dans le début des années 2000, on commence à avoir des baladeurs MP3 à télécharger de la musique numérique. Ils ont voulu fermer les sites de téléchargement. Sauf que ça n'a pas résolu le problème, qui est de dire qu'à un moment donné, le CD c'est has-been et plus personne n'en veut. Et 20 ans plus tard, ça se vérifie, on stream tous de la musique. Bah. Là, on parle de mobilité. Il y a Seat là, qui a sorti un nouveau spot publicitaire qui va dans ce sens. C'est Seat Move. Donc, c'est un ensemble de services que propose Seat qui est de non plus acheter sa voiture parce que bon, ça c'est pareil, on va de plus en plus vers la location longue durée. Et là, il propose non pas de louer une Seat, mais de louer un scooter, une voiture et une trottinette électrique. Et en gros, le message qui est passé, c'est de dire, en fait, à chaque fois que vous avez un trajet à faire, vous prenez l'une ou l'autre solution selon ce qui
selon
est
l'utilité
que vous avez à ce moment-là pour répondre à ces nouveaux besoins.
C'est
et là,
faire des courses pour la bagnole,
ça change un constructeur automobile en constructeur de mobilité. Ce qui est un gros chantier, hein, je compatis, c'est-à-dire que moi, personnellement, j'aimerais pas être constructeur automobile en ce moment. Hein, mais ça appuie mon argument qu'il va falloir se bouger le cul hein, pour survivre. Et... je vais faire un petit peu de patriotisme parce que on a la chance d'être un pays en France où on a encore des constructeurs français qui sont des poids lourds du marché mondial. Renault et PSA, voilà, même si c'est Stellantis maintenant, mais ça fait partie des grands groupes mondiaux. On a la chance d'être dans ce moment-là. Ça serait dommage qu'on perde ce poids qu'on avait en laissant passer la chance qu'on peut avoir d'être...
En se convertissant.
Voilà, en laissant les concurrents s'installer. Parce qu'en fait, on a un avantage et un inconvénient. On a l'avantage d'être installé. On a une image forte, ça fait 100 ans qu'on est là, etc. Et on a un réseau. L'inconvénient, c'est que justement, ce réseau, il va devenir très vite has-been si on ne le fait pas évoluer. Là où les nouveaux constructeurs, les nouveaux services de mobilité arrivent avec des idées nouvelles. Alors on l'a vu là avec par exemple Tesla qui est un bon exemple. Hein.
De manière, la France n'a jamais été très bonne au niveau d'innovation.
Ben si, on l'a été.
Oui, non mais justement.
Mais on s'est arrêté.
C'est ça le problème. C'est toujours on l'a été.
Mais oui.
Mais c'est ça le problème des Français. On a été beaucoup de choses.
Mais oui.
Mais on ne l'est plus.
Mais tu sais, c'est un problème de pays riches ça.
Ouais.
C'est-à-dire que en fait la
on
France après guerre, tu te dis il faut reconstruire. On part de rien et on doit reconstruire. On a été très productif dans les années 60-70. Ouais. Et puis à un moment donné, on s'est dit on a lancé le Concorde, on a lancé le TGV, on a
qu'est-ce qu'on est bon.
Qu'est-ce qu'on est bon et on s'assoit sur nos lauriers et c'est là que ça va mal et on
et là,
commence à en payer vraiment le prix
et c'est fini.
Ça va pas aller en s'arrangeant mais je propose qu'on fasse un point allez on va dire dans 5 ans pour voir si on était dans le bon sens mais je vous avoue que c'est quand même un petit peu dur en tant que fan de bagnole de clôturer ce sujet en se disant bah peut-être la solution c'est de proposer autre chose que des bagnoles tu vois voilà. Non mais c'est vrai hein mais je me dis est-ce qu'il y a une autre solution c'est-à-dire qu'à un moment donné
des trottinettes
bah oui, ouais, mais
ouais, mais quand il... ouais, mais quand il pleut, tu fais comment
bah, trottinette avec un blouson.
Mais d'où le fait que l'automobile, pour moi, n'est pas morte dans le sens où elle apporte une solution à pas mal de problèmes. C'est-à-dire que oui, il pleut, t'es en famille, etc., machin, il te faut une voiture. Mais cela dit, on développe de plus en plus d'autres
véhicules
de mobilité.
Ni des trottinettes, ni des voitures, des entre-deux à trois roues,
oui.
Ce genre de truc.
Bah, en fait, c'est, on va dire, je vais parler d'objets pour chaque usage.
Ouais.
Voilà. Et la voiture ne répond peut-être plus aujourd'hui à tous les usages. Alors moi si, parce que j'aime bien. Tu vois, je vais pas me faire chier en trottinette électrique, il faudra recharger, etc. Tu vois. Mais
ah,
je veux dire,
boulange,
d'une manière générale,
bien.
Vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir privilégier d'autres moyens de mobilité. Et même si vous voulez pas, les villes dans lesquelles vous habitez sont de plus en plus inclines à mettre en avant ce genre de mobilité et à exclure l'automobile de, leur, de l'agglomération. Donc, à un moment donné, même si on n'a pas vraiment envie, on va pas avoir le choix. Donc, c'est soit on continue
tu
en tant que constructeur à faire la dernière
le barreau d'honneur.
Ouais, c'est ça, le barreau d'honneur. Soit on se dit bon, ok. Et on prend ça en compte.
On change et on évolue.
Et on évolue. Et c'est là, je vous parlais de Seat. Je sais que Renault, on parlait de la Renault Lution tout à l'heure, est en train de réfléchir à ça, à changer certaines de ses usines, à les convertir en usines de mobilité. Par exemple, Flins qui a fermé et qui va devenir une usine de mobilité. Je pense qu'il y a dans le plan d'action quelque chose qui va se rapprocher de ça. Et notamment aussi de la manière de, entre guillemets, consommer la voiture. C'est-à-dire pas forcément l'acheter. L'avoir pendant 10 ans et puis la revendre d'occasion, mais plutôt de la louer selon les besoins qu'on a, voire même louer un modèle différent selon le trajet qu'on a à faire entre le quotidien et le départ en vacances, où on aura peut-être la possibilité d'avoir une ou l'autre voiture du constructeur selon ce qu'on a envie de faire à ce moment-là, quoi.
C'est le futur.
Starter, 21h-22h sur Indestar.
À écouter en direct, bien entendu, sur indestar.fr avec toutes les plateformes d'écoute et les annuaires, et en podcast. Alors, qu'est-ce que le podcast, Teddy?
C'est un truc avec du pod et du cast.
Ouais,
donc,
c'est exactement ouais. Ça. Alors, tu sais que ça vient de ça à l'origine, parce que c'est.
Je sais pas ce que c'est qu'un pod.
Bah, pod, c'est par rapport à. C'était quoi? C'est l'iPod de Apple.
Ah ouais?
Ouais. Et ça vient de ça. C'est une contraction entre broadcast et pod de iPod.
D'accord.
Voilà, t'as appris quelque chose.
Voilà ce que c'est qu'un podcast.
Mais non, c'est la possibilité d'écouter l'émission quand vous le voulez, pas forcément en direct.
C'est de l'audio, c'est sur Spotify, c'est sur Deezer, n'importe quoi. Vous pouvez trouver Starter, vous le tapez, vous cherchez Indestar même carrément. Mm-hmm. Vous pouvez réécouter votre émission quand vous voulez.
Tout ça. C'est ça la technologie.
C'est ça le principe d'un podcast.
Bon, vous savez que dans Starter, vous le savez pas si vous venez de débarquer, mais on a un garage. Alors, un garage virtuel, dommage. Mais
on est moderne.
On est moderne, ouais. Des fois, je préférais qu'on la fasse plus à l'ancienne. Mais on a un garage dans lequel on met des voitures au fur et à mesure de l'année, des voitures qui nous font plaisir, des voitures qui ont marqué les esprits. Et cette année, on a encore de la place, hein. Mais là, on va pas en prendre beaucoup aujourd'hui.
Starter, le garage.
Aujourd'hui, dans le garage de Starter, la Mini.
Mimati ?
Non.
Des anges de... Non, mais elle a même pas de bagnole, elle claque des doigts, elle se déplace.
Parce qu'elle aura du mal à avoir une voiture.
C'est vrai que les pédales.
Elle aura peut-être du mal à conduire.
Il y a une adaptation qui se fait.
Mais oui, tu peux mettre des super pédales. Enfin, j'ai déjà vu ça. C'est
génial. Mais là, je parlais de la Mini Austin Teddy.
Non, c'est Mimimati, c'est pas Austin Teddy.
L'Austin Mini. Enfin, j'aurais Austin pu dire Powers, aussi la Maurice, la Leyland, la Rover, la Riley, la Wesley.
La Mini Cooper.
Non, attends, ça, on va revenir.
Trop tôt.
Non, c'est pas ça. On va revenir là-dessus. Non, ça, là, je te parle des marques qui ont commercialisé la Mini. Et ça, c'est pour les marques anglaises, parce qu'en Italie, il y avait Innocenti, en Espagne, il y avait Oti. Et avant de parler de BMW pour les versions modernes. Mais à la base, c'est bien une anglaise, hein, quand même, la Mini. On est en 1956, il y a des restrictions d'approvisionnement d'essence en Angleterre, et là-bas, ils n'ont pas encore leur voiture du peuple, ils n'ont pas encore la Volkswagen. Donc, la British Motor Corporation, elle va demander à ses ingénieurs de faire une voiture à tout prix économique. Alors, faut qu'elle soit moderne, faut qu'elle soit facile à garer, donc faut pas qu'elle prenne trop de place, tout en étant spacieuse pour accueillir une famille de 4 personnes. Donc, c'est pas évident hein, de répondre à tout ce qui est des charges. Cela dit, il y a un certain Alec Zigonis, qui est un ingénieur particulièrement doué, qui va répondre à ce qui est des charges avec des solutions techniques qui étaient plutôt innovantes. Déjà, il va dessiner une petite voiture hein, qui fait juste un peu plus de 2 mètres de long, 1,40 m de large, donc c'est vraiment pas grand. 4 petits trous de 10 pouces seulement à chaque coin, les roues sont plus petites que le volant, hein, c'est vous dire que c'est petit. Et il va chercher comment il peut gagner un max de place à l'intérieur. Donc ça passe par un aménagement avec un tableau de bord creusé jusqu'au moteur. Ouais, mais pas encore du coup. Par des grands bacs de portières, en mettant des vitres coulissantes donc qui descendent pas dans les contreportes, donc ça prend pas de place. La suspension, ça va être des simples caoutchoucs qui vont être mis en place pour remplacer les
ressorts. Des joints de robinet.
Ça prend moins de place. Le moteur va être à l'avant, ce qui n'est pas la norme à l'époque, et il va surtout le mettre en transversal, ce moteur, c'est-à-dire sur le côté.
Avec et il va mettre la boîte juste en dessous.
Exactement, la boîte en dessous. Ce qui fait qu'on économise vachement de place sous le capot, et qu'au final, la voiture, c'est du 80-20, c'est-à-dire 80% de place pour les passagers et seulement 20% de place pour le moteur. Ce qui est vraiment
énorme.
À l'époque, ouais, c'est vraiment.
C'est presque grand à l'intérieur.
C'est vrai.
C'est plus grand à l'intérieur, mais ça correspond bien au style anglais. Si tu connais la série Doctor Who, c'est toujours plus grand à l'intérieur dans sa cabine téléphonique.
Ce qui est grand à l'intérieur est petit à l'extérieur.
Exactement. Ouais. Bah, c'est une cabine téléphonique.
Bon, en même temps, c'est pareil pour c'est vrai. Le moteur n'est pas gros non plus. Hein. C'est un 850 cm3, 34 chevaux, 600 kg tout mouillé pour la voiture. Donc, ça va largement hein, pour prendre du plaisir de conduire. Et puis, surtout, on est au ras de la route. Donc, ce qui fait qu'on la conduit comme un kart. On a vraiment l'impression de conduire un kart. Ouais, ça fait plaisir. Elle sort en 1959, cette première version, avec sa bonne bouille et des déclinaisons qui arrivent un peu pour tout le monde. Il y a par exemple la Riley Elf, qui est une déclinaison qui est une mini 3 volumes un petit peu luxueuse. Il y a un pick-up, il y a deux sortes de break, dont le break vitré, le Countryman, avec l'armature en bois hein, qui a marqué les esprits.
Le style mini break. Ouais. Tu vas rire, mais j'ai vu l'Austin Mini Limousine.
Et là, pourquoi pas
6 mètres de long, ils ont fait un jacuzzi dedans.
Ça, c'est une transformation maison. Ça.
Il y avait Siro. Oui, effectivement. Mm. Mais bon.
Il y a aussi la voiture de plage, la Mini Mock, façon Mehari. Voilà. Bon. Alors, après, globalement, c'est vrai que la Mini, au début, ça n'a pas eu un succès retentissant. Non. Va falloir attendre deux événements pour que ça en soit un. D'abord, elle va avoir son potentiel sportif. Évoluer et naître grâce à un certain John Cooper, on y vient.
Effectivement, un pilote.
Des pilotes de course, il a notamment battu plusieurs records de vitesse à Montlhéry, et c'est lui qui avait réintroduit l'idée géniale du moteur central arrière sur la F1 à l'époque. Il va sortir en 1961 une version boostée de la Mini, vendue sous le label sa marque propre, hein, qui était Cooper Car Company. Alors il faisait ça avec son père, hein, voilà, et donc la Mini Cooper apparaît. Qui au début fait 55 chevaux, qui est quand même vachement plus que les 34 chevaux d'origine, et avant la Mini Cooper S qui va, elle, va monter à 63 chevaux. Et c'est elle qui va devenir la base pour tous les pilotes de l'époque, dont ceux du rallye de Monte Carlo, qui vont faire que bah, la Mini va gagner en 64, en 65, presque en 66, c'est-à-dire qu'elle va gagner, et puis...
Monte Fiasco après.
Ben, on va lui retirer la victoire parce qu'on a dit que les phares sont pas homologués. Alors, oui, il se pourrait qu'on était un petit peu jaloux en tant que Français des Anglais sans ce coup-là. C'est vrai.
Abusé.
Mais cela dit, de toute façon, ça va faire encore plus de publicité pour la Mini.
Bah ouais.
Et c'est d'ailleurs à partir de ce moment-là où elle va se forger une image de petite sportive et. Y a un paquet de Mini transformés, préparés, tunés, notamment en France. On a un spécialiste, c'était Jean-Louis Marna, qui est un préparateur et qui a fait évoluer aussi la Mini. Et le succès commence à naître, et il va être encore plus renforcé quand les stars de l'époque achètent ou se baladent avec
Brigitte Bardot à Saint-Tropez.
Brigitte Bardot, en Angleterre, on avait Eric Clapton. Chacun des Beatles avait une Mini.
Ils avaient tous leur Mini.
C'est leur producteur qui leur a offert. Ouais, il a dit une Mini chacun.
Il y en a un, il va la peindre en version hippie.
C'est vrai. Oui, bah John Lennon, je crois, ou
je
Paul McCartney, je sais plus
un des deux. Ouais.
Steve McQueen aussi avait une Mini, bien sûr. Et puis, ouais, tu le disais en France, Brigitte Bardot, il y a Jacques Dutronc aussi qui chante sur la Mini Mock. Voilà. Au cinéma, on va la voir apparaître, alors notamment dans L'Orse Bar, qui était un film de l'époque. Dans la série, plus tard, on la voit avec Mr. Bean, évidemment. C'est la Mini, c'est le symbole de l'Angleterre aussi.
C'est clair.
Bref, à partir de la fin des années 60 et jusqu'à la fin de la production, donc dans les années 2000, elle devient une voiture qui est tendance et qu'on voit beaucoup dans les quartiers chics. Moi, je me rappelle que dans les années 90, à Paris, il y avait vachement de Mini, notamment par la gente féminine qu'on avait beaucoup.
C'est quand même une voiture assez qui coûte cher, déjà, pour commencer. C'est, c'est une voiture du peuple, mais du peuple assez aisé, quand même.
Au début,
citadine, mais premium, hein,
au début, non. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle est apparue dans les années 60...
L'image a bien changé. Quand même.
Voilà. Après, c'est devenu une voiture qui, jusqu'à la fin, a été fabriquée à la main. Donc, c'est devenu cher
à produire. Ils ont eu du retard là-dessus, même, d'ailleurs, comparé aux autres.
Bien sûr. Et ben, la British Leyland, faut avouer... que parce que ça a été racheté par la British Leyland par un moment, et bon, ils étaient pas au
c'est
top
quoi, c'est
c'est un ensemble de marques anglaises et ils ont fait des économies, notamment des économies en termes de production, et ça s'est ressenti, ce qui fait qu'à un moment donné ils étaient un peu à la masse, et une Mini des années 90 qui avait pas beaucoup évolué par rapport à la Mini des années 60, faut bien avouer, elle était en retard technologiquement, mais elle était quand même dure, enfin, et chère à produire, donc ça en faisait un objet assez luxueux, classe, ouais. Avec peu de choses, mais assez classe quand même. Mais bon, ça restait
toujours.
Il y a juste
l'image qui est classe.
Ça restait toujours un must dans les beaux quartiers, et parce que ça se garait dans un mouchoir de poche. Les petites évolutions, Antoine, quand même, parce qu'il y en a eu.
On va commencer par 59-67.
Ouais, donc première version, c'est la M15,
ça. La M15. Il y a eu deux versions de la M15.
Ouais.
La version basique, donc calandre 9 barres ondulées.
Oui, elle avait une calandre toute mignonne qui était un petit peu arrondie et qui faisait une petite moustache. C'est mignon.
Enjoliveur de roues pleines et insigne Austin et Maurice, ou Maurice.
Ouais, selon qui la vendait, ouais.
Est-ce que c'est comme Philippe?
C'est Philippe Porest, non? Perte promo par...
Et la plaque d'immatriculation arrière qui était basculante pour pouvoir ouvrir le coffre.
Oui, ça c'était vachement bien. Alors ils l'ont arrêté après, je pense, pour des raisons de coût. Mais c'était une simple charnière finalement. Hein. Et ce qui fait que le coffre arrière qui était une boîte à gants, c'était d'ailleurs à peine plus grand qu'une boîte à gants, mais tu l'ouvrais de la même façon. Et en fait, quand tu bascules le coffre pour charger un objet qui est long, bah, si tu n'as pas cette plaque basculante, tu ne vois plus la plaque d'immatriculation. Donc en fait, la plaque bah, basculait, et ce qui faisait que tu voyais toujours la plaque et tu pouvais rouler avec le coffre ouvert pour charger un objet, je vais même pas dire un objet long, mais...
Parce que c'était prévu de rouler courses, avec le coffre
quoi.
Ouvert.
Bah oui, bah, parce que tu pouvais pas mettre autre chose. Quoi,
c'est bien pensé, c'est bien pensé.
Et la version de luxe, elle avait des sièges en vinyle béton et de la moquette du sol et un lave-glace.
Ok. Ah, oh, le lave-glace, attention oui.
En Louis Vuitton.
Le quoi, le...
Les sièges, j'ai cru entendre ça. En Louis Vuitton.
Non. Biton.
En biton.
En deux couleurs.
Ouais. En vinyle, biton. Oui. Ouais, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est Louis Vuitton en vinyle biton. Ouais, c'est pas pareil.
67 à 69, il y a eu la MK2.
Ah, elle a pas duré longtemps, celle-là.
Il y a une version avec le même moteur.
Ouais.
Et un moteur plus gros.
Ah oui, t'avais... 98 cm3. Ok, t'avais le choix entre deux versions, ouais.
Le Cooper, non?
Non, non, non. Cooper était encore vendu sous la marque Cooper. Là, on parle de la Mini vendue sous Austin et sous Morris. Mais ouais, c'est vrai que John Cooper vendait sa propre Mini upgradée, on va dire en performance, sous la Mini Cooper, en fait.
C'est vrai.
Ils ont renforcé le freinage.
Ouais.
Mis une calandre carrée, des feux carrés.
Ouais.
Et attention à la lunette.
Carré.
Et ben carré.
Ok.
Voiture carré.
C'était une voiture carrée mais ronde quand même. Hein.
69 à 76, ils ont la MK3.
Ouais. Juste, je fais une parenthèse par rapport à ce que tu disais. T'es dit, c'est que bien évidemment, chez Rover ou chez British Leyland ou sur ce que tu veux, celle qui vendait la Mini, ils étaient au courant de la pratique de John Cooper et ils l'encourageaient, hein, justement,
bien sûr,
à développer cette
Cooper,
dimension sportive.
C'était, oui, c'était la dimension sportive de la Mini, hein, clairement. Ouais. Il l'a fait évoluer. Sans eux, je pense pas que Mini aurait marché autant. Enfin, sans lui, en tout cas.
Peut-être pas. C'est vrai que, bon, après, on peut se dire, tu vois, quand on avait parlé de la Fiat 500, ça avait mis du temps à s'installer, et puis finalement, c'était devenu un objet iconique. Peut-être que la Mini aurait fait la même chose. Mais c'est vrai que ça a bien aidé, en tout cas.
Ouais. Oui, donc il y a la vitre descendante. Charnière de porte intérieure au lieu qu'elle soit apparente.
Oui, parce que c'est vrai qu'au départ, bah, comme la Fiat Panda,
ils
comme
ont mis extérieur,
hein. C'était extérieur. Ouais.
Lunette arrière avec dégivrage.
Waouh, de la lunette arrière.
Il y a aussi une version en boîte auto en 71.
D'accord.
Et il y a aussi des ceintures, nouveau chauffage.
Waouh.
Et un nouveau carburant en 74.
D'accord.
Un chauffage de ceinture?
Non, chauffage de l'habitacle. Parce qu'il ne devait pas mettre longtemps à réchauffer l'habitacle, vu que c'est quand même petit hein, intérieur.
76 à 84 et MK4.
Mm-hmm.
Donc beaucoup de séries spéciales.
D'accord.
Comme par exemple la Printemps.
Ah oui.
T'achètes ça en printemps.
Au printemps, c'est mieux.
T'as la Mini EVR et la Mini
Primavera.
La Mini 1100 spécial salon. Avec
spécial salon. Tu la mets dans ton salon?
Oui. Ah. T'as grand salon. Bah vu qu'elle est pas grande, tu peux la mettre dans le salon facilement.
C'était la version luxe, ça, non?
Oui.
Oui, est-ce que bah nouveau pare-choc?
Oui.
Déjà, t'en as lu?
Ah.
Qui claque? Il manquerait plus qu'un aileron à l'arrière.
Oui.
Non.
Non. Même pas.
Du bois et sur le tableau de bord.
Ah, ça fait bien à l'anglaise. Hein,
et une peinture métallisée.
Ouais.
C'est luxe. C'est luxe.
Ou encore mieux, en 82 avec la version Mayfair.
Mm-hmm.
Million Farmer. Ah non.
J'y ai pas pensé à celle-là. Avec des ajouts d'extension d'ailes, des sièges en panneaux de porte en velours,
mm-hmm,
des appuis-têtes.
Tu peux te blottir contre les panneaux de porte, quoi, c'est bien.
Ouais, il y aurait même des pneus 12 pouces et des disques de frein avant.
Ouais. D'ailleurs, ça va évoluer. Hein, on est passé de 10 pouces dans les années 60 à 12 pouces dans les années 80. Et même dans les années 90, il y avait une option pour avoir des pneus de 13 pouces. Voilà.
Wow. Alors,
c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des pneus de 20 pouces, ça paraît ridicule. Mais
j'ai des pneus de vélo, ils font plus.
Oui, non, bah normal.
De 84 à 92, t'as la MK5.
Ouais.
C'est pour le 25e anniversaire de la Mini. Ça veut dire nouvelle série spéciale.
Oui. Ah oui, parce qu'après ils font une série spéciale à chaque anniversaire.
Oui, non mais ils ont en vrai c'est les rois de la spéciale hein. Mmh.
Mais en plus, c'est plus très tendance quand ils font des spéciales. À partir des années 80, c'est vraiment le début des séries spéciales et on en a usé et abusé des séries spéciales dans toutes les voitures. Hein.
En fait, chaque voiture était quasiment unique.
Mais oui, mais
ils en produisent ce sens comme ça. Et là, on va changer juste le phare.
On va mettre une petite bande et puis on va faire un partenariat avec une radio et puis voilà, on va en faire une série spéciale, tu vois.
Donc volant trois branches en cuir.
On attend la série spéciale Indestar. Oui.
Peinture métallisée, calandre, pare-choc, rétro gris, intérieur volant gris.
D'accord.
Donc il y en a eu plein d'autres avant la mini 30e
anniversaire, bah oui.
Donc de 92 à 97, t'as la MK6.
Oui.
On passe à l'injection et au catalyseur.
Oui, parce que c'est obligé, ouais, ça c'est la loi qui l'oblige.
Ils sont chiants avec ça. Ou encore les versions spéciales avec une mini cabriolet.
D'accord, ah oui, une mini cabriolet, ça c'était encore les beaux quartiers. Hein.
Ouais. Et de 97 à 2000, il y a la MK7.
Ouais, je l'ai dans les mains. J'ai une cassette dans les mains, une cassette audio.
Alors vous l'avez pas vu, mais c'est ça que j'ai pas compris.
Oui,
en fait, à un moment donné, en fait, là vous le voyez à la caméra, vous voyez moi et Antoine, coucou. Ouais. Et en fait, Théo s'est levé à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va foutre? Il a été dans un bar derrière. En fait, il a été ramasser une cassette pour préparer sa blague. Mais bravo, c'est du génie.
Il faut de la préparation.
Donc il y a peu de motifs, à part quelques reforts sur la carrosserie pour paraître pas trop nul.
Ah, au crash test, tu veux dire? Ah oui, ils ont mis des renforts dans les portières, je crois, et tout.
Ça se cassait assez facilement?
Bah, comme toute voiture conçue dans les années 50, hein, en même temps. Ouais. Et puis en plus, c'est une petite voiture. Donc, déjà, de fait, une petite voiture
c'est
a
déjà comprimé,
tendance à se plier. Voilà, elle est déjà comprimée par nature.
Avant la fin de carrière, ils ont mis j'ai rejeté un airbag.
Ah, ils ont mis un airbag conducteur,
au cas où.
Ouais, bon, au cas où.
Pourquoi pas. Seul, hein, tu vois.
Ah bah, c'est déjà pas mal.
Ça fait moins mal.
Bon, et après, donc, je crois que c'est en 94. Où le Rover se fait racheter par, enfin le groupe Rover se fait racheter par BMW. Bon et puis il continue un peu à vendre cette première Mini etc. à vendre des Rovers et puis en 2000, BMW débarrasse de pas mal de marques dont Rover d'ailleurs, mais il conserve seulement Mini. Et Mini vont en faire quelque chose, Teddy.
Ouais, notamment en 2001 ils vont sortir la Mini 2.
Ouais,
enfin, deuxième version on va dire, grosso modo, la R50. C'est la R50.
Mm-hmm.
J'ai hésité avec 56, mais non, c'est 50. Donc, ils vont l'appeler. Ils l'ont produit de 2001 à 2006.
Ouais.
Ils appellent ça une berline compacte 3 portes. Je les déteste.
Oui, bah.
Non, c'est une citadine.
Oui, mais c'est une berline.
Non, c'est quand même.
3
portes. C'est une citadine.
C'est une citadine berline compacte 3 portes. Ça fait long, après, on avait des noms à la Porsche.
Alors, il la fabrique à Oxford, en Grande-Bretagne.
Ouais.
Donc,
ah, quand même, c'est ça reste anglais.
C'est corpo.
Ouais. Alors que c'est une voiture allemande, mais ça.
Mais oui. Il reste dans l'état d'esprit, en tout cas.
Mm-hmm.
Par contre, elle a plus grand chose à voir, du moins en termes de dimension, avec la Austin Mini.
Ah, bah, elle fait trois fois la Mini de base, ouais.
Trois fois. Non, deux fois le poids.
Deux fois le poids.
Donc, une tonne 2,
hein. Ouais.
Enfin, pas loin. 60 cm de longueur en plus et 27 cm de large en plus.
Ouais.
Ouais, t'es pas mal, hein.
Disons que ta place de parking que t'avais avec ta MK1 ou ta MK7, là, tu l'as plus, là. Bon, plus de garer dans un mouchoir de poche.
Si tu faisais 2 mètres avant, tu fais 2 mètres 60, quoi. Ça
va.
Ah,
mais elle fait plus que ça.
Non, là aussi une Mini.
Oui.
Tu m'as dit qu'elle faisait 2 mètres.
Un peu plus. Ouais, mais celle-là, elle fait. Elle
60 cm de plus.
Oh non. Non, je suis sûr qu'elle fait genre du 4 mètres.
On parle pas de la M3.
Ah ouais.
Pas de la Mini 3.
Ouais, mais elle fait au moins 3 mètres. Moi, je dirais 1 mètre de plus.
Je sais pas.
Bah, il faudra vérifier.
Je suis pas sûr.
On vérifiera nos sources.
Après, oui, c'est la Austin. La Austin, la toute première de 59, n'est pas exactement la même non plus que la Austin qui est, je sais pas, qui est sortie en 94.
Quasiment, ils avaient rajouté un petit pare-choc et il a peut-être progressé de 5 cm, mais c'est tout.
Ouais, mais tu vois, 5 cm plus 5 cm, peut-être que ça a gagné. Ah. Hein.
Mais là, carrément, elle a pris de l'embonpoint, quoi.
C'est vrai, non, clairement. Elle a pris des options aussi, elle a pris du class, du standing.
Mm-hmm.
Ils en ont fait 4 versions. Alors, évidemment, sauf les versions spéciales, on va prendre juste les versions de base. Hein. La Mini One, la Mini Cooper, il est toujours la Cooper.
Ouais. Oui, mais là, Cooper n'était plus un fabricant à part entière, mais simplement c'est juste une version sportive de la Mini.
Ça veut dire la sportive, clairement. Voilà, c'est ça. Par contre, ils ont poussé le vice plus loin encore, la Mini Cooper S.
Ouais.
Comme c'est Cooper, ça suffisait
pas. Ils avaient déjà la Cooper S.
Bien sûr qu'ils l'avaient déjà avant, mais on l'avait pas précisé, c'est pour ça. Et la Mini Cooper S plus... Kit John Cooper Works.
Ah, bah, le pauvre.
Qui est en gros. Alors, il vendait la bagnole et il vendait un kit moteur.
John Cooper est mort en 2000. Hein. Donc, il a pas vu. Il doit se retourner dans sa tombe. Ou pas, parce qu'il a une voiture à son nom en même temps.
C'est la seule bagnole que je connais qui vend avec un kit en plus pour pimper ta bagnole. Et qui est légale.
Ah, tu la pimpes après l'achat?
Ouais.
Ah ouais, ouais. Marrant.
Bah c'est, ils ont sorti la bagnole, puis tu vois, ils se sont dit, attends, on peut faire mieux, on va vendre le kit pour augmenter le truc.
Mais c'est vrai qu'ils étaient un peu en avance sur quelque chose de BMW qui a très bien compris que
les personnalisations.
Comme dans les dernières années de la commercialisation de la première Mini, il fallait aller sur la berline haut de gamme. Voilà, la Mini haut de gamme. Ils se sont dit que pour avoir une Mini haut de gamme, qu'est-ce qui allait différencier de l'autre Mini? C'est de la personnalisation. Donc ils ont été les premiers à proposer une personnalisation de la Mini, et ils ont joué à fond cette carte du British, où on peut avoir un toit avec le logo l'Angleterre ou ce genre de choses.
Même d'ailleurs dans la Mini 3, on va beaucoup retrouver cet esprit personnalisation à fond, à fond, à fond, et re à fond, je le précise bien. Les cadrans, attends, j'ai noté un mot, c'est génial. Le tachymètre.
Oui, le tachymètre, c'est le compteur de vitesse, tout simplement.
Mais je savais pas. Ah ouais. normalement, sur la Mini version 2, il était déjà plus en face du conducteur, il était sur
au centre.
Là, sur la 3, ils l'ont mis au centre.
Ouais.
Ils l'ont mis en grand,
oui.
Avec un grand écran pour l'option GPS, évidemment.
Ouais.
Ils ont mis ça avec toute une ambiance de lumière à l'intérieur, variable, que tu peux changer toi-même.
Ouais.
Donc tu peux mettre du bleu, du vert, voilà.
Tuning.
Personnalisé, toujours à fond.
Ouais.
Tu peux personnaliser.
Alors tu peux le faire maintenant dans la plupart des voitures, mais c'est vrai qu'à l'époque,
ça restait haut de gamme.
C'était haut de gamme. Et le compteur central, ce qui est marrant, c'est que sur les premières Mini, tu l'avais au centre au départ, et sur la version des années 90, ils l'avaient remis, je vais dire, à sa place, mais voilà, devant le conducteur.
Ils ont dit non, c'est pas
mais
bien.
Mais après, ils se sont dit, on va jouer la carte de nostalgie à fond, et on va remettre ce gros compteur central qui est emblématique de la Mini, quoi.
Ils ont changé aussi un truc assez sympa sur la Mini 3, qui s'appelle la R56 au passage, la hauteur du toit. Parce que c'est vrai que Mini, c'est pas accessible à tout le monde, dans le sens où si tu fais 1m80,
c'est
déjà
compliqué.
Chaud. surtout quand t'es à l'arrière, en plus, t'as peu de place, hein, on va pas se mentir.
Bah oui, ça reste une petite voiture
quand même. Faut vraiment faire 1m60, quoi. Et ben là, ils se sont dit, on va agrandir l'espace entre le sol de la bagnole et le toit.
Ouais.
Pour pouvoir accueillir des gens un peu plus grands. Genre 1m80, ça passe, tu vois.
Ouais. Ils avaient déjà réussi, pour moi, un peu ce pari sur la première. Alors évidemment, l'idée d'emmener toute la famille en vacances avec les bagages, c'était un peu compliqué.
Il y a de l'espace, mais pas pour des gens grands.
Mais disons qu'en fait, ils avaient quand même mis les sièges le plus bas possible pour avoir le plus de hauteur sous plafond possible. Après, tu peux pas faire de miracle non plus. Hein. Ouais. Il fallait pas que tu mesures 2 mètres.
Puis en plus, la moyenne effectivement des humains était plutôt basse.
C'est vrai que
là ça augmente, donc forcément fallait que ça augmente.
C'est là que je me dis que je suis vieux en fait, parce que je suis resté à l'ancien temps là.
Après, ce qui est marrant aussi à savoir, c'est que sur la Mini 3, ils ont un moteur de chez PSA.
Ah oui.
Ouais, c'est comme quoi, c'est assez innovant. Un moteur de chez PSA qui
un
vient
moteur
de la
français,
France... oui.
Avec
française
une voiture
de mécanique,
allemande,
s'il te plaît.
Ouais. Pour une voiture qui se vaut anglaise. Mais en même temps, qui est quand même produite en Angleterre. Alors que nous, chez nous, on a des Clio qui sont produites ailleurs dans le monde, quoi.
Après, effectivement, oui, ils ont fait ce choix-là, ce sacrifice, on va dire, entre guillemets. C'est pas vraiment un sacrifice parce que ça leur sert bien. C'est plus pour faire une voiture. Avec une bonne performance. Ce moteur là il a été réfléchi en fait. C'est un très bon moteur. Je sais plus ce qu'il a de plus que d'autres, hein, mais si ça y est, j'ai trouvé. C'est un moteur 4 cylindres avec, qui fait partie de la famille des Princes.
Des Princes,
c'est une catégorie de moteur,
ouais.
Mais qui tape.
Ouais, mais alors tu vois, s'ils avaient pris un moteur anglais, ils auraient pu faire un moteur Elisabeth II par exemple.
Eh ben c'est vrai, mais tu vois, peut-être que c'était Prince Harry ou j'en sais pas. C'était Prince, voilà.
Okay.
Donc par la Française de Mécanique, qui est une entreprise de fabrication de moteurs à Douvrin. C'est en France.
D'accord.
Je sais pas où c'est, mais
si
c'est
vous habitez Douvrin, un petit coucou alors.
Un coucou. On la compare souvent, la Mini 3, à la Golf GTI, à la Clio RS quand même.
Oui, parce qu'il y a des versions sportives qui rivalisaient clairement en termes de performance et qui étaient plutôt agréables à conduire. Alors, avec un peu moins l'effet kart de la Mini 1, mais ça restait quand même un peu un kart. Dans la conduite des voitures actuelles, c'est l'une des voitures avec laquelle on ressent le plus de sensations.
Ouais. Parce qu'ils ont mis beaucoup d'aide électrique dedans.
Bien sûr. Ouais.
Mais. Ils ont fait attention à conserver le ressenti sportif.
Oui.
Parce qu'ils le veulent encore.
Parce qu'il y a en plus de de l'âme de la voiture qui date de la première, mais aussi l'âme de BMW. Et BMW, c'est aussi de la sensation de conduite. Donc il faut que
faut que ça se sente.
Faut que ça se transparaisse sur la Mini. Ouais. Ça vaut combien aujourd'hui une Mini?
Alors ça dépend laquelle. Hein. Si tu pars par exemple sur l'Austin Mini.
Oui, prenons
J'en ai trouvé plusieurs.
Ouais, peut-être l'une des premières.
Alors j'ai pas trouvé de toute première. Ouais. Malheureusement, je suis assez triste là-dessus. Ouais, ça doit être pas mal. J'avais trouvé deux. Attends, c'était quand la date? 72.
Ouais.
C'est pas mal ça. 6800. Mm-hmm. C'est pas cher, hein. C'est pas cher pour 66 000 km.
Ouais.
Franchement, c'est plutôt
cool. Ça reste accessible.
Je l'ai trouvé sur la centrale, en vrai, ça va.
Dans quel état aussi? Parce qu'il faut faire attention à la rouille, hein. Attention.
Hein. Elle avait l'air assez neuve. Après, j'en ai trouvé une autre à 6700 à 42 000 km de 80.
D'accord.
C'est pas mal non plus.
Ouais.
Après, ça tape dans 68. Alors là, je sais pas pourquoi. Ah si, c'est parce que c'est une version spéciale.
Ouais.
C'est la version break, la Countryman.
Ah oui, donc la version break en avec l'architecture en bois. Ouais.
Et bah là, tout de suite, elle a que 11 000 km.
Ah ouais.
Autant dire. Ah ouais. Mais 35 000 euros le mec.
Bah ouais, mais m'étonne pas. Mais
ah, ça pique, hein.
Ouais, après, ça reste pas si cher que ça globalement, tu vois, par rapport à le prix de certaines. Je trouve que ça reste encore un objet. On peut se permettre. Après. Bon, pour rouler tous les jours avec, parce qu'on a quand même surtout les versions des années 70-80 produites par la British Lion.
Bah, j'ai pas trouvé plus ancien en fait comme recherche. Donc,
non, mais
les autres, elles doivent être.
Celle des années 90 était plus fiable, celle des premières était certainement aussi un peu plus fiable, mais bon, celle produite par la British Lion était quand même relativement peu fiable. Avec des défauts qu'on connaissait sur l'ensemble des voitures anglaises, c'est-à-dire un problème d'électrique. Tu dois refaire. Bon, après, l'avantage, c'est que les pièces, même d'origine, sont toujours dispo. Tu peux même te refaire une Mini entièrement neuve, hein, avec une coque entièrement neuve, etc. Il y a des spécialistes, notamment en région parisienne, qui te la refont. Donc, tu peux aujourd'hui avoir une Mini qui soit, on va dire, fiable et entièrement dans l'état d'origine.
Tu sais que tu peux acheter ton moteur à Douvres en France, déjà?
Ouais, non, mais c'est pas le même. C'est pas celui-là.
Je sais bien, mais bon.
Mais bon, en tout cas, ouais, tu peux te permettre de refaire une Mini avec des pièces qui sont pas très chères, parce que les pièces de Mini, c'est pas des tarifs exorbitants, hein, c'est Mini. Très bien. voilà. Donc, ça reste quelque chose d'accessible et en collection. Et puis, ce qui est cool, c'est que tu as des versions qui font 34, 50, 60 chevaux, allez, à tout casser, mais avec lesquelles tu prends un plaisir fou à conduire. C'est tape cul, voilà, mais t'as l'impression vraiment d'être dans une course alors que t'es entre deux feux rouges, quoi.
Tu enlèves le capot, tu jettes des pots de banane, t'es dans Mario Kart.
Exactement, non mais c'est ça l'esprit, quoi. C'est ça l'esprit Mini. Ouais. Quelque chose à rajouter?
Mangeons des bananes.
Starter sur Indestar.
Sur Indestar.
Starter dernière ligne droite pour ce lundi soir de la rentrée, lundi soir de janvier 2022. Avec les insolites, parce que bah ouais, même pendant les vacances, moi j'ai vu une voiture encastrée dans une barrière, par exemple. Ouais.
Ah bon, moi j'ai vu un truc
pour
plus insolite
pour
si
le conducteur.
Veux.
T'as vu quoi?
J'ai vu un Solex, et c'était pas toi en plus, parce que
non,
je sais que t'as un Solex. J'ai vu un Solex avec quelqu'un en trottinette électrique qui était accroché au Solex. Non, ils étaient accrochés ensemble,
ouais.
Et ils roulaient comme ça.
Et c'était dans mon village en
c'était
plus.
C'était le 31. Ouais, le 31.
Alors, on fasse la course tous les deux.
Le soir défoncé, je sais pas.
Ah ouais, je sais pas, bah, une petite envie de sortie, pourquoi ouais. Pas. Des petites infos insolites, comme ça on en a quelques-unes, Teddy, une petite info?
Oui. Le temps, comment dire, à ton avis, ta voiture elle passe combien de temps à ne pas bouger?
Oh, pas longtemps, parce que elle bouge tout le temps avec moi.
Eh ben, figure-toi qu'elle passe beaucoup plus de temps à ne pas bouger qu'à bouger.
Ah oui, bah oui, normal.
C'est obligatoire.
C'est vrai, parce que
c'est comme le temps que tu passes au chiottes, ce genre de
truc. Ah non, c'est pas obligatoire, parce que celui qui est routier, par exemple, il passe plus de temps sur la route.
Alors c'est vrai que le camion, ouais.
Ou en tous les cas, un certain plus que ton chiffre certainement, qui est de
95% du temps de. Enfin, ta bagnole passe 95% à attendre en stationnement.
Donc c'est là où on en revient à la, est-ce qu'il faut avoir tout le temps sa voiture, etc. Et qu'on fait pas d'autopartage et machin. Bon,
oui, effectivement,
ça pose question, quoi, en tout cas.
5% de la vie de la bagnole, c'est pas énorme. Hein.
Non, bah non.
Voilà. J'en ai une autre, mais je la cherche.
D'accord. Moi, j'ai un petit garage dans le Nord-Pas-de-Calais où il y a Julien et Jimmy, qui nous écoutent, bah, un petit coucou les gars, qui sont en train de restaurer une des rares Batmobiles d'Europe. Voilà. Donc ils se sont
Batman,
dit, qu'est-ce qu'on pourrait restaurer comme bagnole? Allez, bah, une Batmobile.
Bon, c'est pour rentrer à Gotham, c'est plus pratique.
Je sais pas comment ils retrouvent les pièces, par contre. Je sais pas comment ça se prépare.
On va demander à Bruce.
Ah, Bruce. Ouais, mais je connais pas. Moi, je...
Tu connais pas Bruce Wayne?
Non, non. Ah oui.
C'est Batman.
J'ai pas suffisamment de culture Batman pour te répondre.
Bah, Wayne Enterprise, si je préfère. Ils doivent avoir les pièces.
D'accord, bah on va demander à Wayne Enterprise.
Ouais. Ils ont des bâtiments dans toutes les villes, partout.
Mm. Ok. Nouveau sondage.
Pardon.
On oublie Antoine.
Bah oui, à chaque fois on m'oublie.
Oh.
Oui. Moi je vous demande combien y a-t-il de pièces en moyenne dans une voiture?
Ah,
je sais pas, il y a 3 portes.
Oui.
Il y a le salon, l'habitacle.
Voilà, je sais pas, je dirais 100 000.
Au moins.
Moins?
Oui.
50 000.
Encore moins.
Ça dépend si t'as une Tesla.
Oui, ça dépend ce que t'as, parce que dans 2 chevaux, 10. on a dit combien? Bah, 20 000.
Non, 30 000.
30 000, en moyenne, hein, évidemment. Oh, oui. Ouais, ok.
En moyenne, t'as 30 000 pièces.
Une bagnole moderne, on parle. Hein.
Je vais regarder sur moto combien il y en a.
D'accord, on pourrait faire la comparaison, mais ouais. Moins, je dirais. ça paraît logique.
Oui, je dirais entre les 15 000, à mon avis.
Ah, peut-être. Peut-être. Donc là, 30 000, ok, pour une voiture. Ah, déjà, oui. Si tu divises tout par deux, en fait, une moto. Non, mais ok, bon, c'est un chiffre à retenir. 30 000, c'est le nombre moyen de pièces qu'on a dans une voiture.
Vous pouvez les apprendre par cœur, comme ça, ouais. Vous êtes tranquille après.
Mais non, mais la machine à café, comme ça, c'est une info que vous pourrez ressortir demain matin.
Starter, le sondage.
Bon, et demain, la machine à café va falloir voter aussi pour le nouveau sondage qu'on vous mettra d'ici quelques minutes sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram Indestar Radio et puis sur la page Facebook Indestar. Est-ce qu'une pub ou une offre commerciale, telle qu'on l'a vu tout à l'heure, pourrait vous inciter à acheter une voiture?
À acheter, tu veux dire, hein?
À acheter.
Ouais, c'est ce que je...
Pardon, ça...
La magnifique. J'adore le truc. À acheter une voiture. Mais oui, ouais.
T'achètes une voiture et un chat. C'est ça, une contraction.
Est-ce que ça...
Ouais. Il te fait penser à acheter une voiture fantôme. Ouais.
Ou oui, plutôt.
Je vois pas trop l'association qu'ils ont voulu mettre là-dedans. Mais bon... Pourquoi pas? Bah dites-le nous, hein, et puis on vous votez, et puis on fera le débrief la semaine prochaine, lundi soir, à partir de 21h, pour une nouvelle émission de Starter.
Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.